BFM Business, BFM Crypto, le club.
Et comme chaque jour, avec un peu de retard aujourd'hui, BCE oblige, notre club BFM Crypto. Ils sont à nos côtés, Adli Takal Bataille. Bonjour Adli.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver, merci d'avoir fait le déplacement sur le plateau de BFM Business. Vous êtes le président du Cercle du Coin, associé fondateur de Shift Capital. Valentin Nico avec nous aussi depuis Bourse Direct. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume.
La BCE a donc dégainé. Valentin, est-ce que vous voyez un impact sur les cours des cryptos cet après-midi ?
Écoutez, non, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'impact. En tout cas, on peut dire qu'il y a tout de même de l'espoir qui est de retour sur les marchés, notamment celui des crypto-monnaies en règle générale, du moins, en tout cas par rapport à jeudi dernier. Je rappelle quand même qu'avec la publication de l'inflation américaine, on était retourné sur des zones d'alerte à la fois sur les indices actions, entraînant notamment le Bitcoin à 19 000 et l'Ethereum à 1100. Et on est dorénavant quand même dans une réactivation haussière clairement technique, avec un Bitcoin au-dessus des 22 000 et un Ethereum autour des 1500, ce qui nous fait quand même des belles variations hebdomadaires, donc 15% sur le Bitcoin et 38% sur l'Ethereum. Et on a aussi un beau rebond donc sur la capitalisation totale du marché crypto, qu'on prenne le Bitcoin ou pas en compte dans cet indice. Donc, comme quoi, même si le tableau économique qu'on nous présente est très noir depuis quelques mois, le marché semble vouloir voir un petit peu plus loin. On a une détente sur l'indice de la peur VIX qui retombe à 24. On a également une détente sur l'indice de confiance INN qui est plus en extrême peur, mais semble se rapprocher de la zone neutre progressivement. Donc peut-être que le pire a été vu et on est peut-être en train de faire le fameux retournement attendu, que ce soit sur les actions ou les cryptos, où on est en train de former des zones de bottom et différentes figures techniques qui sont plutôt rassurantes. Maintenant, attention parce que la moindre nouvelle est difficilement encaissable, notamment dès qu'on touche à l'inflation. Donc, faudra faire attention la semaine prochaine aux publications à la fois d'inflation et de politique monétaire avec la publication du FOMC. Techniquement, on repasse quand même au-dessus donc de la moyenne mobile 200, que ce soit sur le Bitcoin ou l'Ethereum. Donc ça, pour la majorité des analystes techniques, c'est quand même un signal très important. Donc là, on n'est peut-être pas sur le meilleur moment d'entrée quand on a des progressions aussi fortes sur la semaine. Mais voilà, la moindre petite correction sur une ou deux séances, peut-être que ce sera le bon moment pour viser les prochaines résistances à 28 sur le Bitcoin et à 2000 sur l'Ethereum. Voilà.
Oui, les prochains seuils que vous avez identifiés. Merci beaucoup Valentin. Valentin Nico en direct avec nous aujourd'hui depuis Bourse Direct. Les seuils techniques, attention bien sûr, les propos de nos analystes techniques ne constituent jamais des conseils d'investissement. Et si l'on investit en crypto, c'est l'argent qu'on est toujours prêt à perdre, hein, on le rappelle. Marché toujours très volatile. Adli, à l'instant, Valentin nous parlait d'Ether qui, depuis quelques jours, c'est vrai, surperforme. Rebond récent d'Ether, encore un peu plus puissant celui du Bitcoin, parce qu'Ether, Ethereum, sa blockchain, va changer de visage et passer au proof of stake. C'est l'Arlésienne, on appelle ça aussi le merge dans l'univers crypto. Et ce merge aurait lieu a priori courant septembre. Concrètement, ce sera quoi ? À quoi ça va ressembler ? Quels seront les impacts du merge d'Ethereum ?
Alors, les impacts, ils sont nombreux en quelque sorte, même si du coup on appelle plus ça Ether 2.0 parce qu'à l'origine ça devait être une immense mise à jour plus ou moins d'un coup et finalement ça, c'est très ça va être en séquencé en étapes. Et donc qu'est-ce que ça change principalement ce passage au proof of stake? Ça change la politique monétaire d'Ethereum qui pour l'instant en fait émet des ethers à chaque bloc, même si ça a été diminué au fil du temps. Et ça va être une politique monétaire où il y a une inflation en fait qui va être constante pour les mineurs, mais inflation qui va s'ajuster suivant le nombre de mineurs dans le réseau en fait. Plus il va y avoir d'ethers qui vont être stakés, donc bloqués finalement, immobilisés pour vérifier la chaîne, plus l'inflation va baisser. Parce que le but c'est d'attirer les ethers dans le staking pour sécuriser d'autant plus la chaîne. Enfin, c'est la théorie derrière, en tout cas, la théorie économique derrière, pour sécuriser la chaîne. Parce que plus il y a de valeur, plus c'est dur de théoriquement la compromettre. Donc ça, c'est un gros changement parce que avec le standard qui avait été publié l'été dernier, donc le IP 1559, c'est un standard Ethereum qui permet de réajuster les frais de gaz d'une manière spécifique qui fait que lors de fortes périodes d'utilisation où les gens se bagarrent pour être inclus dans les blocs et paient très cher en gaz, Ethereum va aussi brûler.
En gaz, on précise, c'est oui. pas le gaz, Pardon, c'est oui. pas la matière physique, c'est voilà, c'est.
Bah, c'est un peu le.
C'est une opération financière.
C'est un peu le pétrole ou le ouais. gaz d'Ethereum, c'est-à-dire que pour le faire fonctionner, pour faire fonctionner un smart contract, il faut du gaz. Pour faire une transaction, il faut du gaz. Et ce gaz, il est composé d'Ether. Le gaz, c'est plus l'unité technique pour donc payer ces transactions. Et les périodes de forte croissance d'Ethereum vont pouvoir finalement rendre Ethereum déflationniste. Et ça, c'est un gros changement. C'est-à-dire qu'il va pouvoir y avoir une destruction du nombre d'Ether sur la masse totale d'Ether en circulation. Parce qu'en fait, la destruction d'Ether via le mécanisme de brûlage des frais va pouvoir dépasser l'inflation. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui change énormément de choses, parce qu'on passe à un actif qui est inflationniste constamment, à un actif qui va pouvoir être qui va avoir des périodes d'inflation et des périodes de déflation suivant son usage.
Et ça change à peu près tout, ça.
Bah, ça change en termes de valorisation, ça change tout.
Ouais.
Parce que vous avez un actif qui peut se raréfier, ce qui n'était pas le cas précédemment.
Alors c'est souvent l'argument porté pour vanter les avantages de Bitcoin. Le Bitcoin est rare, c'est l'or numérique. Vous nous dites, désormais avec ce passage en proof of stake, l'Ethereum prendra certaines des propriétés de rareté de Bitcoin.
Bah, il y a beaucoup d'éthéristes qui donc les personnes oui. notamment de la communauté Ethereum et qui vont le défendre corps et âme qui disent que finalement
ils Ethereum sont à Paris d'ailleurs
une meilleure monnaie que Bitcoin oui. parce que elle va devenir déflationniste potentiellement. Et ils appellent ça l'ultra sand money, parce que bon, on appelle la sand money, donc la monnaie sonnante et trébuchante. Et du coup, petite blague de dire que Ethereum devient l'ultra sand money dans le sens où c'est encore plus que de la monnaie sonnante et trébuchante, parce qu'il y en a de moins en moins. Donc oui, ça peut vraiment tout changer. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est corrélé à l'usage. Donc finalement, c'est assez cohérent en termes de politique monétaire, et ça va pas, ça peut presque un peu stopper la spéculation en quelque sorte, ou pas stopper la spéculation mais la rendre plus rationnelle dans ses calculs économiques. Et l'autre chose intéressante, c'est que le proof of stake donc va créer une inflation constante pour ceux qui stake leurs ethers, donc qui les bloquent chez des validateurs. Et finalement, il va y avoir un retour sur investissement constant via l'inflation. Et donc Ethereum va peut-être se transformer en quelque sorte en un espèce de bond du trésor du cyberespace. Parce que ça serait une manière de parier oui. sur l'écosystème complet technique qui sera construit sur Ethereum, avec un rendement récurrent nominal en Ether. Et surtout que maintenant, il y a beaucoup de produits dérivés, ça serait très facile de faire un produit où l'utilisateur va hedger ses récompenses et garder l'exposition à Ether en tant que validateur.
Alors, il nous reste à peine 2 minutes, mais ça nous amène aux tokenomics, oui. c'est ça ?
C'est ça.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Bah, les tokenomics, c'est donc les économiques autour des tokens. Comment on va créer des systèmes économiques qui vont être cohérents, aligner les intérêts et faire en sorte que les réseaux soient autonomes ? Parce que c'est ça le but d'origine de Bitcoin, réussir à créer un réseau autonome, auto-organisé, par son système de récompense via les mineurs, par sa rareté, par la manière dont a été designée finalement l'émission monétaire du protocole, qui dans le cas de Bitcoin se rapproche plus de l'or que comme matière première. Et donc la token economy, c'est toute cette science, entre guillemets, c'est pas forcément le bon mot, mais en tout cas cette réflexion et compétence autour des mécanismes économiques dans les tokens qui permettent d'avoir alors une valorisation du token qui va être cohérente, d'avoir un intérêt pour le token et une utilité pour le token, et aussi de toujours faire en sorte que les utilisateurs aient intérêt à aller dans le sens du protocole et à décourager finalement ceux qui voudraient aller dans un sens contraire.
Et donc ça pourrait entraîner une forme de nouveau rapport au capital.
Ah, totalement. Pour moi, c'est en fait on parle souvent de Bitcoin en tant que store of value, et je pense que les tokens de manière générale sont les store of ownership, c'est-à-dire que c'est la nouvelle manière de posséder et qui va permettre de finalement de faire des choses bien plus complexes via l'automatisation, la programmation et via le fait qu'on va pouvoir diviser les droits par exemple de au sein d'une activité beaucoup plus facilement. Là, on a déjà des classes d'action, mais on pourrait faire des choses bien plus fines et bien plus ajustées par rapport finalement à la plus-value dans la gouvernance d'un utilisateur, par exemple.
D'accord. Quelqu'un qui... Les droits sur les actifs seront probablement, des actifs financiers pourquoi pas aussi, seront probablement révolutionnés par ce que vous nous décrivez et qui passera par Ethereum version Proof of Stake.
Ça pourrait passer par n'importe quel réseau qui émet des jetons. Ça, c'est les règles d'émission des jetons après propres, mais on pourrait penser, par exemple, qu'il y aurait des actions McDo pour les spéculateurs purs et durs, et d'autres qui seraient finalement qui auraient des incitations à manger chez McDo, mais c'est pas forcément le mieux, à participer à la gouvernance de McDo, à peut-être aider des fermiers ou j'en sais rien, et seraient en quelque sorte récompensés en ayant des droits supplémentaires par rapport aux simples spéculateurs.
Oui, et sur les marchés financiers, il n'y a pas que des spéculateurs, il y a des investisseurs.
Oui, je veux dire investisseurs non participatifs. On va pouvoir vraiment faire une distinction entre le passif et l'actif. Parce que moi j'avoue, quand j'ai des shares de sur Revolut ou n'importe quel broker, pour l'instant, j'ai jamais voté. J'avoue, j'ai jamais pris le temps de voter. Donc en fait, je ne vote pas. Donc je participe pas à la vie de l'entreprise. Et finalement, je mérite moins des dividendes que d'autres actionnaires qui, eux, vont prendre le temps de voter.
Bon. Et après, quand on est actionnaire traditionnel d'une entreprise, on a un droit de vote et on peut aller en assemblée générale.
C'est ça.
Cette démocratie-là existe et vous nous dites, elle peut se trouver renforcée.
Il y a déjà beaucoup de gouvernance décentralisée actuellement dans les cryptos, et surtout, on pourrait finalement suivre le fait que la participation, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça va aussi inciter l'actionnaire à s'intéresser à l'entreprise et à essayer d'y contribuer.
Bon, mais ce que je voulais vous dire, c'est en assemblée générale normale, d'une entreprise normale, cotée sur les marchés financiers, je vais en assemblée générale, j'ai un droit de vote avec mon action.
Totalement.
Le monde traditionnel l'avait déjà inventé, Ali.
Non, mais ça vient
c'est
sûr,
ça
bien
que je voulais vous dire.
Moi, ce que je veux dire, c'est que dans le monde traditionnel, les dividendes sont très, très... il y a une règle de symétrie des dividendes qui est très importante. Il y a rarement de la symétrie entre les dividendes, alors que finalement, tous les actionnaires ne se valent pas en quelque sorte. Et la crypto peut permettre d'aligner les intérêts sur des besoins spécifiques de l'entreprise. Par exemple, elle pourrait dire à un moment, elle a besoin de contact dans tel domaine. Un actionnaire arrive à lui apporter ce contact et finalement, il a une récompense pour ça qui passerait via son scoring d'actionnaire en quelque sorte.
Oui, beaucoup plus d'agilité donc.
Voilà.
Merci d'être passé nous voir, c'est intéressant, ce monde de demain qui tente à se construire et vous en êtes l'un des pionniers. Adli Takel-Bataille, président du Cercle du Coin, associé fondateur de Shift Capital. Bon retour, Adli.
Merci.
À bientôt. Dans un instant, on reprend notre spécial BCE, spécial aussi consacré à la démission de Mario Draghi, chargé Mario Draghi de former un gouvernement technique jusqu'aux élections législatives anticipées. Elles sont prévues à la rentrée de septembre-octobre en Italie, ces législatives anticipées. On voit l'écart de taux entre l'Italie et l'Allemagne s'accroître, plus haut de 2 ans pour cet écart de taux. 240 points séparent les 10 ans italiens et allemands, malgré l'instrument antifragmentation présenté tout à l'heure par Christine Lagarde. On s'en reparle dans un instant. À tout de suite.